les conférences de Radio Vassivière.
Le 7 février 2015 avait lieu les deuxièmes rencontres du réseau Zone Humide à Royères de Vassivière. Radio Vassivière était partenaire de cet événement, organisé à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, le Parc naturel régional Mille Vaches en Limousin et l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Afin de répondre à une dégradation persistante des zones humides, le réseau de gestionnaires de ces espaces est basé sur le volontariat et s'adresse aux exploitants agricoles ou forestiers, aux collectivités territoriales ou aux particuliers. Il regroupe dans la région plus de 110 adhérents sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. La journée s'est organisée autour de trois tables rondes. Nous vous proposons d'écouter la première d'entre elles, qui avait pour thème « Eau, zone humide et biodiversité ». Parmi les intervenants, Arnaud Durané, doctorant en géographie, Olivier Villard, chargé de mission au PNR Mille Vaches, et Frédéric Lagarde, professeur de biologie.
L'eau, les zones humides et la biodiversité. Hein. Il y a des singuliers et des pluriels. Avec, dans un premier temps, donc Arnaud qui nous a rejoint, doctorant en géographie. Vous êtes spécialiste de l'écologie et de l'hydrologie des zones humides. Doctorant pour l'Université de Lyon-Saint-Étienne et University College of London. Je vous donne la parole.
Bonjour à tous. Alors, oui, je suis ancien salarié du Conservatoire des espaces naturels du Limousin. Émigré depuis assez longtemps maintenant en Grande-Bretagne. J'ai travaillé pour l'équivalent des conservatoires là-bas, les Wildlife Trust, pendant quelques années. Puis ensuite, j'ai un petit peu changé d'orientation et j'ai embarqué sur une carrière plus ancrée dans la recherche. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon travail qui porte sur la tourbière des Dauges dans les monts d'Ambazac. Mais bon, le fonctionnement est identique à celle du plateau de Mille Vaches. Erwan m'a demandé de présenter quelques mots rapides sur les tourbières de façon générale, donc une définition, les intérêts, et puis quelques mots sur le fonctionnement hydrologique. Donc la définition des tourbières, c'est la tourbe, hein. Sans tourbe, pas de tourbière, ça s'entend dans le mot. La tourbe, c'est des restes végétaux qui ne se décomposent pas et qui s'accumulent lentement. Cela est lié à l'absence d'oxygène dans le sol. Sans oxygène, pas de micro-organismes, donc pas de décomposition de la matière organique, et donc une accumulation au fur et à mesure des siècles et des millénaires. Cette absence d'oxygène dans le sol est liée à une saturation en eau, quasi permanente, hein, avec une nappe affleurante, qui peut exister dans de multiples conditions hydrogéologiques. Alors, on a des tourbières qui sont liées à des écoulements de sources, ou en tout cas un affleurement de la nappe minérale. C'est le cas de la plupart des tourbières en Limousin. On a des tourbières qui peuvent s'accumuler dans des creux, par exemple tapissés d'argile. Hein, c'est le cas de pas mal de tourbières dans le Jura, notamment, dans les dolines. Des tourbières qui peuvent s'étendre latéralement vers l'intérieur. Au-dessus de plans d'eau, un lac, et puis des tourbières qui sont liées au débordement de rivières ou de fleuves. Et puis enfin, des tourbières un petit peu spéciales qui sont liées à un excès d'eau atmosphérique, donc liées à des climats humides, notamment atlantiques, dans les tourbières bombées et tourbières de couverture. Alors, ces tourbières ont un rôle primordial dans le cycle du carbone et la régulation du climat du fait de l'accumulation de cette matière organique riche en carbone. On estime qu'il y a 600 gigatonnes de carbone qui sont stockées dans les tourbières à l'échelle mondiale. Et à titre de comparaison, l'atmosphère en contient 830. Donc vous imaginez ce qui se passerait si ce carbone stocké dans les tourbières était relargué dans l'atmosphère. On a montré que les tourbières ont joué un rôle de régulation du carbone atmosphérique et donc du climat, des températures au cours de l'Holocène, c'est-à-dire depuis les dernières glaciations, avec une augmentation du stockage de carbone lorsque le climat se réchauffe et puis une diminution de l'accumulation du rythme d'accumulation du carbone lorsqu'il se refroidit, donc une stabilisation du climat. Mais dans le cadre de changements climatiques drastiques comme ceux qu'on connaît actuellement, elles peuvent vite devenir d'importantes sources de carbone suite à un changement climatique. Ça peut également intervenir suite à un changement hydrologique, par exemple dans le cadre d'un drainage, puisqu'on oxygène, on aère la tourbe qui se décompose et relargue le carbone. Elles ont un rôle aussi dans la chimie des eaux de surface, puisqu'elles sont caractérisées par une très forte teneur en eau, une forte teneur en matière organique, et donc une très forte capacité de séquestration des polluants minéraux. Dans le cas du Limousin, par exemple, il y a des problèmes de fonds géochimiques assez importants en arsenic, en radionucléides. On a montré que, par exemple, dans une tourbière suisse, les concentrations en arsenic dans les cours d'eau passent de 400 à 2 mg par litre entre l'amont et l'aval de la tourbière. Donc, on a une séquestration extrêmement importante de l'arsenic dans ces tourbières. C'est le cas aussi pour les radionucléides. En Suède, notamment, on a montré une diminution de 65 à 80% des teneurs en uranium, mais c'est valide aussi pour le thorium ou pour d'autres radionucléides, entre l'amont et l'aval des tourbières. Alors, c'est des éléments minéraux qui ne se dégradent pas. Donc, ils sont stockés dans la matière organique, séquestrés à la matière organique, mais s'il y a une minéralisation de la matière organique, ces polluants peuvent être relargués, notamment suite à un assèchement, donc suite à un changement climatique ou un drainage. Elles peuvent aussi devenir, ces tourbières, une source potentielle de carbone organique dissous assez importante suite à la baisse du niveau de la nappe. Et c'est ce qui a conduit en Grande-Bretagne, notamment, les compagnies de distribution des eaux à financer la restauration des tourbières, puisqu'elles ont considéré qu'il était plus rentable de conserver les tourbières, de maintenir les tourbières dans un état hydrique satisfaisant que de traiter l'eau avant distribution.
Juste, je vous interromps, vous parlez de la Grande-Bretagne, c'est un exemple unique ou est-ce qu'il y a d'autres pays où ça s'est produit, à votre connaissance?
J'avoue que je pense que ça s'est produit ailleurs également. Ouais, la Grande-Bretagne est particulière dans le sens où ils ont des tourbières de couverture qui couvrent une grande superficie du territoire, notamment sur la partie nord et ouest du pays. Et il y a des bassins récents qui sont entièrement couverts de tourbières. Donc là,
il y avait une vraie nécessité.
Oui. Et puis également une vraie histoire, une longue histoire de dégradation des tourbières en Grande-Bretagne.
L'utilisation des tourbières de manière un peu anarchique.
Ouais, très intensive. Elles ont un rôle dans la contribution à la biodiversité, puisque ce sont des écosystèmes qui sont très originaux sous nos latitudes. Qui sont acides, avec des écarts de température très importants, très humides, puisque saturés en eau, et puis très pauvres en éléments minéraux. Ce qui fait qu'il y a une faune et une flore adaptées à ces conditions, faune et une flore très particulières. Et les tourbières, notamment, comprennent 6% de la flore française. Alors, comment fonctionne-t-elle en termes d'hydrologie? Je vais vous parler un petit peu de l'exemple de la réserve naturelle nationale de la tourbière des Doges, où on a suivi sur 3 ans les niveaux d'eau dans la tourbière. Donc là, vous avez en fait la fréquence de position de la nappe par rapport au niveau du sol. Le niveau du sol, c'est 0. Et puis ensuite, on descend, là, par exemple, c'est 80 cm. On voit en fait que la nappe est la majeure partie du temps à la surface affleurante ou légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Et elle ne descend que très rarement et plus profondément que quelques centimètres et jamais plus d'un mètre, sauf dans certains cas où il y a des problèmes de drainage. Ce qu'on a montré aussi, c'est que, donc là on voit en hiver la nappe qui est affleurante au niveau du sol, qui s'abaisse en été, puis qui revient après au niveau du sol en hiver. On a montré aussi qu'il y avait une différence de pression en fait entre l'eau entre la tourbe et les minéraux sous-jacents, donc la reine granitique ou le granit fissuré sous-jacent. Et en fait, la pression de l'eau en dessous de la tourbière est plus importante que la pression au-dessus. Et donc, on a en fait un mouvement d'eau du granit vers la tourbe. En fait, une alimentation de la tourbière via la nappe du granit fissuré sous-jacente. Le niveau d'eau dans la tourbière est maintenu à un niveau près du sol par ces apports qui montent de la nappe sous-jacente. Alors comment on explique ça? Alors ça c'est une cartographie de la topographie de la tourbière avec les puits environnants. C'est un alvéole granitique tout à fait classique en Limousin, fermé en amont de la tourbière. La tourbière est située ici. Hein. On a un petit relief résiduel au milieu de la tourbière, le puits rond pour ceux qui connaissent, et puis donc les puits environnants. Et donc la tourbière est intégrée au sein d'un alvéole granitique classique. Alors la théorie a beaucoup changé sur l'hydrologie, l'hydrogéologie du granit au cours des 10 ou 15 dernières années. Jusqu'à peu, on pensait que le granit était quasiment complètement imperméable et que l'eau ne circulait que dans les arènes superficielles, le sable, le granit dégradé, et que donc cette réserve était limitée à quelques mètres de profondeur. Et que les tourbières donc, se développaient dans le fond des vallées du fait de l'apport de surface ou de sous-surface assez limité. En fait, les travaux du BRGM récents ont montré que c'était totalement différent et qu'on avait une couche de granit fissuré, très densément fissuré, sur une épaisseur de 30 à 100 mètres, avec une porosité finalement assez importante par rapport à ce qu'on pensait auparavant, entre 1 et 5%, qui joue un rôle de stockage de l'eau et d'écoulement de l'eau. Et ça, on a pu le vérifier sur la tourbière des Doges, où on a fait des mesures de résistance électrique du sol, ce qui permet de voir un petit peu les différents niveaux du sol, du sous-sol en fait. Donc là, on a une épaisseur de 50 à 60 mètres de profondeur, et on voit donc le granit aéré, ou de l'air est présent dans les fissures, très résistant ici en rouge, et puis la nappe phréatique carrément, qui est dans le granit fissuré. Les arènes sont présentes de façon extrêmement limitée. Sur les monts d'Ambazac, elles ont été érodées en grande partie, juste sur ces quelques mètres. Donc elles jouent un rôle hydrologique qui est assez limité. Et c'est le granit fissuré qui joue un rôle vraiment de réservoir et de transfert de l'eau dans le bassin versant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les limites de la tourbière correspondent exactement aux endroits où la nappe intersecte la topographie de surface. Donc la tourbière est vraiment liée à l'affleurement de la nappe phréatique du granit. Et donc on a vraiment une connexion très importante entre la tourbière, la zone humide et son bassin versant. Donc on a essayé d'étudier un petit peu cette connexion en construisant un modèle hydrologique. Donc un modèle hydrologique, c'est une sorte de série d'équations mathématiques qui représentent chaque composant du cycle de l'eau, donc le ruissellement en surface, les infiltrations souterraines, l'évaporation, la pluie, et les écoulements dans les ruisseaux. Et donc on essaye de reproduire avec le modèle les données observées. Donc là en noir vous avez les données qu'on a enregistrées, donc les débits par exemple en aval de la tourbière. Et puis en bleu vous avez les données qui sont prédites par le modèle. Donc on a un modèle qui fonctionne relativement bien pour les débits dans les ruisseaux en amont et en aval de la tourbière. Et puis également pour les niveaux d'eau dans la tourbière. Et puis avec ça donc on peut essayer de voir... De prédire, de voir s'il y a une adéquation assez bonne entre la tourbière, les limites de la zone humide observée, puis les limites des zones humides prédites par le modèle. Et on voit que ça colle extrêmement bien. Donc vraiment, la tourbière est déterminée par l'affleurement de cette nappe en surface. On a également calculé en fait les échanges d'eau entre les différents composants du bassin versant. Alors ce qui est intéressant, faut pas polir tout ça. Hein, c'est donc là on a la tourbière, là on a le granit fissuré sous-jacent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les apports sous-jacent à travers le granit, les apports du bassin versant sont équivalents quasiment à ceux apportés par la pluie directe. En tout cas au niveau souterrain, et on a une grosse part du budget hydrique de la tourbière qui est apporté par le ruissellement de surface. Donc une importance, le rôle du bassin versant sur l'hydrologie de la tourbière est fondamental, quoi. C'est vraiment le paramètre fondamental pour comprendre l'hydrologie de la tourbière. Donc on a essayé de modéliser aussi l'effet de l'occupation des sols sur le bassin versant, avec une question importante qui est l'effet notamment de l'enracinement sur les débits et les apports d'eau dans la tourbière. Donc là c'est en aval de la tourbière, et des deux côtés là c'est en amont. On voit que si on remplaçait le bassin versant intégralement, à l'heure actuelle c'est essentiellement du boisement feuillu, si on le remplaçait par des conifères intégralement, on aurait une baisse d'environ 10% des apports vers la tourbière, en tout cas des apports en amont de la tourbière. Si on remplaçait par des prairies, on aurait une augmentation des apports. Alors l'effet est un peu tamponné par la tourbière en fait. En sortie de la tourbière, l'effet est beaucoup moins important, peut-être du fait d'une capacité de tampon de la tourbière. L'effet sur les niveaux de la nappe dans la tourbière est visible également. On a en hiver, les sols sont complètement saturés, il y a une sursaturation en eau, donc on n'a aucun effet visible. Par contre, en été, on a, lorsque le bassin versant est couvert de conifères, on a un approfondissement, un enfoncement de la nappe assez important, qui est assez variable en fonction des conditions hydrologiques, mais qui est visible tous les étés. Alors ça, c'est vrai en périphérie de la tourbière, sur la zone qui est la plus connectée au bassin versant. C'est un peu moins vrai au centre de la tourbière, où là, on n'a quasiment pas de différence entre les différents scénarios. Voilà, donc on peut conclure un effet probable de l'occupation des sols sur le bassin versant, sur l'hydrologie de la tourbière, notamment, et en particulier sur les zones périphériques qui sont les plus dépendantes du bassin versant. Donc voilà, ça c'est des travaux qui sont encore en cours et qu'on va essayer de continuer dans le futur, mais qui je pense sont assez importants pour montrer les relations importantes qu'il y a entre les zones humides, les ruisseaux, et les bassins versants sur ces têtes de bassins versants et sur ces zones de moyenne montagne. Voilà, merci de votre attention.
Je sais pas. Est-ce qu'il y a une question tout de suite, ou est-ce qu'à la fin de cette table ronde, on prendra un temps? Oui.
Oui, bonjour, Philippe de la Guéronnière, exploitant forestier. C'était une question liée à la présence des résineux sur le bassin versant et donc sur la diminution des apports en eau à la tourbière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait la relation qu'il y a?
Oui. Là, c'est sur les scénarios que j'ai utilisé comme essence le Douglas. Et en fait, on sait que le Douglas a une capacité d'interception plus importante que les feuillus, et bien sûr plus importante que les milieux ouverts. Donc l'eau, la pluie qui arrive sur ces Douglas est stockée dans les aiguilles, hein, est capturée par la canopée de la forêt et évaporée dans l'atmosphère. Donc il y a une proportion d'eau qui s'écoule vers le sol qui est moins importante que dans le cas des feuillus ou dans le cas des milieux ouverts. C'est essentiellement ça l'impact principal.
Une autre question ?
Bonjour, Muriel, je travaille sur la tourbière des Dauges. Et je voulais savoir si on pouvait toujours... nous, on parlait de tourbière topo-soligène. Et par rapport à ce que tu disais, a priori, ça serait quand même plus essentiellement une tourbière liée au relief. Et est-ce qu'on peut toujours parler de tourbière topo-soligène ?
Elle est les deux à la fois, en fait. Elle est liée à la dépression du fond de l'alvéole granitique, hein, et donc à l'affleurement de la nappe. Donc ça, c'est le caractère un petit peu topogène, le fait qu'on a une accumulation de l'eau dans le fond de la tourbière. Mais elle est également soligène parce qu'elle est essentielle, elle est très dépendante des apports, des infiltrations issue du bassin versant à travers le granit fissuré vers la tourbière. Donc elle n'est pas purement topogène, c'est une tourbière purement topogène, ça serait une tourbière qui est liée, c'est le cas des dolines dans le Jura par exemple, où le substrat calcaire est très infiltrant, donc l'eau, la nappe du calcaire n'est jamais affleurante. Les tourbières du Jura sont liées à une imperméabilisation de creux des dolines, en fait, hein, liées au système karstique du Jura, où on a un dépôt d'argile qui est imperméable et qui donc garde les eaux météoriques. Donc là, ça serait une tourbière typiquement topogène. Dans le cas du Limousin, c'est un mix entre les tourbières alimentées par les sources, les infiltrations, et puis une accumulation d'eau dans la dépression topographique.
Merci. Et juste une autre remarque par rapport, donc tu parles de nappe phréatique, alors que jusqu'alors on nous avait toujours dit qu'il n'y avait pas vraiment de nappe phréatique, mais plutôt des poches aquifères. Est-ce que tu peux nous distinguer un peu, enfin nous préciser la distinction?
Nappe phréatique, c'est une nappe qui peut être exploitée pour l'alimentation en eau, donc elles le sont. Les travaux du Bergem ont fait vraiment évoluer la conception des choses sur ces aspects-là. On parle d'aquifères maintenant dans le cas du granit fissuré. Ouais. Pas simplement des écoulements, des nappes perchées comme ça, des petites nappes perchées comme on voyait la chose auparavant. On a vraiment une nappe qui s'écoule dans le granit fissuré.
Une question?
Bonjour. Dans ta série de données, j'ai vu que tu avais le printemps 2011. Qui a été un printemps extrêmement sec. Donc comment ça s'est matérialisé dans l'hydrologie de la tourbière?
Ça dépend des endroits, finalement. Sur les piézomètres qui étaient au milieu de la tourbière, il n'y a pas eu tellement de différence parce que le niveau de la nappe est essentiellement lié à l'évaporation. Il y a une épaisseur de tourbe qui est très importante, donc une connexion entre la tourbière et le bassin versant qui est moindre que sur la périphérie de la tourbière. Et donc le battement de la nappe, le niveau de la nappe est essentiellement lié à l'évapotranspiration, qui elle-même est dépendante de la profondeur maximale des racines. Et dans les tourbières, la profondeur maximale des racines est assez faible, en tout cas quand la tourbière n'est pas boisée. Donc c'est 60-80 cm, donc la nappe au milieu de la tourbière n'est jamais tombée beaucoup plus bas que ce niveau-là. Par contre, en périphérie de la tourbière, on a vu vraiment une différence assez importante. Je pensais qu'il y aurait un schéma là, mais il n'y est pas. Sur les piézomètres qui étaient à l'extérieur, en périphérie de la tourbière, on a eu un enfossement de la nappe beaucoup plus important en 2011 que sur les années suivantes. Parce que cette périphérie de la tourbière est beaucoup plus connectée au bassin versant, et donc la baisse des niveaux dans le bassin versant a entraîné une baisse des niveaux aussi au niveau de la tourbière.
On va passer donc au troisième intervenant, toujours dans le cadre de cette table ronde, la première des tables rondes de la journée, toujours donc au sujet, je rappelle, eau, zones humides et biodiversité. Troisième intervenant, alors qui est là?
C'est le Parc Naturel Régional 2000 Vaches.
Oui.
Je suis Olivier Villa, donc j'excuse Pierre Couteau qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui.
Donc chargé de mission, vous, en ce qui vous concerne,
voilà,
au parc.
Voilà, moi je suis Olivier Villa, chargé de mission, et je remplace Cathy Linné, qui elle non plus n'a pas pu être là, qui est la personne en charge du dossier que je vais essayer de vous présenter.
Donc c'est la labellisation Ramsar, le sujet. Hein.
Voilà, alors le sujet, c'est un sujet très, très théorique, puisqu'il s'agit d'une labellisation donc, qui directement n'aboutit pas à des actions telles qu'on a pu les voir au fil du film. Mais ça reste quand même un dossier assez important qui était prévu dans la première charte du PNR, qui s'achève. Donc dès 2004, c'était un projet qui devait être mené par le parc, et qui consistait donc en la labellisation du territoire en tant que zone Ramsar. Un projet porté par le Parc Naturel Régional. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une labellisation Ramsar? Ramsar, en fait, c'est un traité intergouvernemental qui a été adopté en 1971 dans la ville de Ramsar, en Iran, et qui a été ratifié par 160 pays.
Donc, c'est un traité intergouvernemental qui a pour objectif la préservation durable des zones humides. Cette préservation, elle passe par une utilisation rationnelle des zones humides, par la désignation par les États signataires de la Convention de sites de zones humides d'importance internationale et par une coopération entre les États signataires de la Convention. Donc c'est un projet qui tourne autour d'un certain, voilà, de la préservation de sites bien identifiés. Et les élus du parc, dès l'élaboration de la première charte, avaient donc bien compris que le parc régional de Mille Vaches pouvait prétendre à une telle labellisation. Cette labellisation, nous, à défaut de disposer d'espèces d'oiseaux qui sont des espèces déterminantes pour la désignation de certains sites Ramsar, à défaut de disposer d'effectifs très importants d'oiseaux d'eau, qui aurait pu être une clé d'entrée pour proposer le territoire à la labellisation. L'entrée que le PNR a choisi de mettre en avant, c'était l'abondance et la surdensité de zones humides. Ce projet, il a reposé en fait sur une analyse SIG. Donc en rouge, le trait rouge, vous avez la limite du territoire du PNR. Donc notre responsable SIG, donc système d'information géographique, a regardé quelle était la densité des sources. Et vous voyez sur l'image de gauche que effectivement la zone cœur de parc est une zone qui est très riche en sources. De même, il a fait une analyse sur la densité des cours d'eau, donc qui ressort à droite. Donc là, on voit qu'il y a un lien direct, bien évidemment, entre la densité de sources et la densité de cours d'eau. Il a de la même manière regardé quels étaient les secteurs du PNR qui détenaient une forte densité de zones humides, et en particulier de tourbières. Donc on a toujours ce fameux arc tourbeux qui ressort, tel que le nomment les botanistes. Donc, se dessiner un périmètre qui pouvait être intéressant en zone cœur de parc. Il a ensuite regardé, superposé sur le relief, les exutoires des principaux cours d'eau. Il a fait réapparaître donc les densités de zones humides qui étaient intégrées au sein de la zone délimitée par les exutoires des principaux cours d'eau. Et il y a rajouté les sites qui étaient occupés par la moule perlière, donc une espèce associée aux zones humides, enfin au cours d'eau, qui est menacée à l'échelle mondiale. Puisque je rappelle, Ramsar, c'est bien une labellisation issue d'une convention internationale, donc il faut avoir de l'eau à apporter au moulin, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Donc le périmètre qui ressort, c'est celui-ci, de cette analyse. Donc c'est un périmètre vraiment centré sur le cœur du PNR, un périmètre au sein duquel vous trouvez une surdensité de sources, une surdensité de cours d'eau, une surdensité de zones humides et notamment de tourbières, et ainsi qu'une très belle population, enfin une très belle, oui, une belle population de moules perlières, espèce menacée à l'échelle mondiale. Donc, ce travail a été fait. Il faut savoir que c'est le ministère de l'écologie qui est responsable de la validation de cette demande faite par le territoire. Donc, le dossier est encore en phase de consultation locale. Et je terminerai cette intervention par une diapo qui fait écho à une intervention qui a été émise tout à l'heure, qu'on a entendu lors de la première présentation, c'est que demain, le plateau de Mille Vaches, qui était un peu le cœur de la région, le cœur de la région Limousin, qui irriguait le territoire de ses cours d'eau, demain, le plateau de Mille Vaches, il sera tout à fait marginal. On voit qu'il est ici. Et il passera d'une situation de cœur de territoire à une situation périphérique. Ainsi, la labellisation Ramsar sera un outil indéniable pour ce territoire, pour mettre en avant ce qui, on l'a bien compris depuis ce matin, fait la qualité de ce territoire, c'est-à-dire une qualité de l'eau et une abondance de zones humides plus importante qu'ailleurs. Et on voit qu'il est important que ce projet aboutisse si on se place dans une logique de communication à l'échelle de la future grande région, puisqu'aujourd'hui, les sites Ramsar, ils sont essentiellement littoraux, ce qui n'est pas illogique, puisqu'on a des sites qui hébergent des populations d'espèces d'oiseaux très, très importantes. Mais on voit que dans la partie continentale de la future région, aucun site de zone humide n'est actuellement identifié. Je terminerai en disant que ce site représentera 82 000 hectares s'il est validé, ce qui représente à peu près 4%. Et bon, il est essentiellement situé sur le bassin versant de la Vienne, aux trois quarts. Ça représente à peu près 4% du territoire du bassin versant de la Vienne. Mais si on considère les surfaces couvertes par les zones humides, qui est en réalité directement liée à la pluviométrie, on se rend compte que si on pondère l'importance du plateau de Millevaches à l'échelle du bassin versant, on se rend compte que c'est stratégiquement une bonne idée pour les décideurs que de concentrer des efforts dans ces zones tête de bassin, puisqu'en réalité, ce territoire compte pour 3 ou 4 fois plus comparativement aux autres territoires, en ce qui concerne l'alimentation du bassin versant de la Vienne en eau de surface.
Une question, peut-être le temps de montage du dossier, entre l'initiation du dossier, là en l'occurrence il est sur le bureau du préfet, si j'ai bien compris.
Il est en consultation locale, donc il est sur le bureau de la direction régionale de l'environnement. Le temps de montage, sinon, il est assez rapide, hein, il est de l'ordre de 1 an.
Bon, par contre, il n'y a pas d'autres zones, là je m'adresse à la présidente, il n'y a pas d'autres zones éligibles sur la région, ou Erwan ?
Ce que je voulais dire, c'est ce qui est très intéressant dans la candidature là, du parc naturel, c'est qu'au niveau mondial, dans le réseau des sites Ramsar, il y a très très peu de tourbières acides. Donc la candidature va être certainement bien reçue. Et le plan d'action national zone humide animé par le ministère en charge de l'environnement avait déjà identifié en 2010 le fait qu'il était important que le territoire national puisse proposer à la convention Ramsar des nouveaux sites. Donc là, voilà, on voit bien qu'on peut répondre à la fois à une demande internationale et puis au plan d'action national. Donc ça serait bien que ça puisse se mettre en place le plus rapidement possible.
Alors, il faut avoir en tête que ce n'est pas un outil contraignant, c'est vraiment un outil plus de communication et de labellisation. Il est nécessaire qu'un plan de gestion soit rédigé, mais on a une abondante littérature technique au travers des programmes territoriaux des agences de l'eau, notamment, de tout le recueil d'expérience du conservatoire, des documents d'objectifs Natura 2000, puisque 65% de la zone Ramsar est déjà située en site Natura 2000. Donc je dirais que localement, on a déjà un historique de négociation et de vulgarisation de ce qu'est la protection de l'environnement qui est important.
On parle de communication, donc j'imagine que ça peut être aussi un atout touristique pour le parc, c'est-à-dire mettre en valeur le fait que ça soit labellisé et attirer au moins des amateurs, voire peut-être même des chercheurs.
Alors ça peut l'être, évidemment. Maintenant... C'est, je pense, avant tout un outil de discussion avec les décideurs et un argument qui ne peut qu'appuyer la poursuite du travail engagé. Après le volet touristique, le parc y travaille, mais il utilise d'autres leviers que la labellisation environnementale.
Oui, enfin, c'est quand même peut-être aussi...
C'est un atout, c'est un atout, bien sûr.
À développer.
À développer, bien que la première des motivations est... et la mise en mouvement de l'ensemble de ces... Enfin, la complémentarité avec le travail déjà accompli.
Des questions à propos de ce sujet ?
Oui, bonjour. J'avais une question par rapport... Vous disiez que pour la labellisation Ramsar, vous avez pris l'entrée des habitats plutôt que des oiseaux. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau des espèces migratrices qui viennent sur le territoire du parc, Il y a des efforts à faire ou c'est juste au niveau des masses d'oiseaux, c'est pas un chemin de migration particulièrement emprunté par les oiseaux migrateurs.
C'est-à-dire que effectivement, les principales voies de migration sont les voies atlantiques, ce qui a d'ailleurs bien été déjà pris en compte par la convention Ramsar. Et c'est vrai que le plateau de Mille Vaches a un intérêt secondaire pour l'accueil des populations d'oiseaux migrateurs. Même si on a des données intéressantes, par exemple la présence de la sarcelle d'hiver ou de la bécassine des marais, on n'atteint jamais les seuils demandés par le cahier des charges de la Convention.
Alors merci. Pour cette première table ronde, dernier intervenant, Frédéric Lagarde, vous êtes naturaliste et professeur de biologie.
Je vais vous présenter quelques résultats de travaux que l'on a effectués dans le cadre de l'association du Champ des Possibles. C'est des travaux de recherche qui s'intéressent à la thématique des relations entre paysage et biodiversité, ou changements globaux et biodiversité en Limousin. Et c'est un programme de recherche que l'on réalise en collaboration avec le CNRS, et pour la première tranche duquel on a travaillé dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature avec l'appui du parc. Donc, bien entendu, dans ce cadre de recherche, un de nos angles d'attaque prioritaires, c'est de s'intéresser à la biodiversité qui vit dans les zones humides ou dans les complexes de zones humides et de landes qui se trouvent sur le plateau de Mille Vaches. Et par changements globaux, on s'intéresse aux changements de paysage et aux changements climatiques. Nos modèles d'études, c'est essentiellement des petites bestioles. Alors, pourquoi des petites bestioles? Il y a une raison écologique simple, c'est quand on parle de biodiversité en France, 90% de la biodiversité, c'est des petites bestioles et pas des grandes bestioles. Voilà. Donc ce que j'entends par petites bestioles, c'est essentiellement des invertébrés. Nous, nos groupes d'études privilégiés sont les arachnides et les carabes, pour des raisons de simplicité méthodologique d'inventaire. Il faut bien avoir à l'esprit qu'au-delà de leur importance numérique, c'est aussi les espèces qui ont un rôle fonctionnel clé dans les écosystèmes, et qui pour autant sont peu pris en compte en termes de conservation. En France, on a 40 000 espèces animales. Sur ces 40 000 espèces animales, on en a à peu près 37 à 38 000 espèces d'invertébrés. Uniquement, le reste sont des vertébrés. Pour les vertébrés, 60% des espèces ont un statut de conservation ou de protection. Pour les invertébrés, c'est moins de 1%. Ce n'est pas du tout qu'elles aillent mieux, c'est tout simplement parce qu'on les ignore, pour faire un peu caricatural. Alors, nous, on s'est intéressé depuis 2008... aux relations entre paysage et biodiversité dans les tourbières du plateau de Mille Vaches. Et pour ça, on a mis en place un réseau de sites d'études, d'une trentaine de sites différents, dans lesquels on a réalisé des inventaires assez intenses concernant les carabes et les araignées. Et ensuite, on a essayé de comprendre les relations qu'il existait entre la structure des communautés des sites tourbeux que l'on suivait et les conditions environnementales. Les conditions environnementales, ça allait être quoi? Ça allait être la qualité de la tourbière, les groupements végétaux qu'elle renferme, et aussi la structure du paysage aux alentours des tourbières que l'on suivait à différentes échelles spatiales. C'est-à-dire qu'on caractérise le paysage dans une zone tampon de 300 mètres autour de la tourbière que l'on étudie, de 600 mètres, plusieurs kilomètres, jusqu'à 6 kilomètres de distance. Les caractéristiques paysagères des zones voisines, ça va être quoi? Ça va être la densité d'autres zones tourbeuses dans le paysage voisin, la proportion d'espace occupé par les zones agricoles, par les zones forestières, etc., etc., le linéaire des cotones. Enfin, vous pouvez mettre tous les paramètres qui vous paraissent intéressants d'un point de vue écologique par analyse spatiale sous SIG. Et donc déjà, les résultats d'inventaire brut en eux-mêmes, avant de faire quelque analyse statistique que ce soit, sont intéressants parce que si on prend par exemple les araignées, on constate que dans les tourbières limousines que nous avons suivies, sur 30 sites tourbeux seulement, enfin, c'est déjà pas mal, mais bon, il y en a plus que ça, on a détecté la présence de plus de 50% des espèces d'araignées présentes dans le Limousin, tout milieu confondu. Ça veut dire, ça montre bien, encore une fois, l'importance en termes de biodiversité ou d'accueil de biodiversité de ces milieux patrimoniaux. Alors, c'est dû essentiellement au fait qu'une tourbière, c'est pas qu'une zone humide, c'est une intrication de milieux avec des caractéristiques végétales et microclimatiques très diversifiées à petite échelle spatiale, et donc du coup à quelques mètres de distance on peut avoir des communautés animales très diversifiées. Ça c'est le premier point. Le deuxième point intéressant de ces résultats d'inventaire brut, avant toute analyse, c'est que parmi ces espèces, nombreuses sont celles qui sont méconnues, rares en France. Plus d'un tiers des sites qu'on a étudiés pourrait être considéré comme non prioritaire en termes de conservation, parce que de petites superficies, parce qu'énormément dégrainées au niveau de leurs groupements végétaux, et pourtant ils renferment un cortège d'espèces rares et spécialistes écologiques quand on les étudie sous l'angle de la biodiversité des petites bestioles. Ça montre que quand on fait un diagnostic écologique d'un site, si on ne prend pas le temps ou on n'a pas les moyens de faire des inventaires un peu précis sur cette face cachée de la biodiversité, on peut facilement passer à côté de sites qu'on considérerait comme non intéressants, alors qu'en fait, ils renferment une biodiversité remarquable, rare et menacée. Ensuite, le cœur de notre travail, nous, c'était de comprendre quelles étaient les relations entre cette biodiversité et les paramètres environnementaux, qualité du site, structure du paysage. Et quand on regarde ce qui joue sur la qualité d'une communauté, alors la qualité d'une communauté animale, pour nous, ça va être quoi? Ça va être le nombre d'espèces, ça va être le nombre d'espèces spécialistes des milieux tourbeux qu'on va trouver dans les tourbières. On a plein d'indicateurs de ce type-là. Et ce qu'on trouve comme résultat, c'est que l'on s'intéresse aux araignées ou aux carabres, on a toujours le même style de paramètres environnementaux qui vont conditionner la qualité de la communauté animale vivant dans les milieux qu'on étudie. Premier paramètre, bien entendu, sont des paramètres qui en plus vont intéresser différentes échelles spatiales, le site qu'on étudie, mais aussi le paysage qui l'entoure. Au niveau du site, bien entendu, la qualité du milieu tourbeux va jouer. Plus la tourbière va être active, plus elle va renfermer un cortège riche en espèces spécialistes, on pouvait s'y attendre. Autre paramètre important, c'est la fragmentation à large échelle des milieux tourbeux. C'est-à-dire que si dans un secteur, je vais vous faire un résumé de à peu près 40 km² autour du site qu'on étudie, la densité des tourbières est encore assez forte. À ce moment-là, la communauté d'espèces animales que ces milieux tourbeux vont héberger sera riche et diversifiée en espèces spécialistes des milieux tourbeux. Par contre, s'il y a un mitage des milieux tourbeux dans le paysage, même si le site que vous étudiez est de qualité, vous allez avoir un effondrement important du nombre d'espèces spécialistes de ce milieu, même si le milieu est de qualité. Et dernier point important, c'est l'importance des forêts dans une zone tampon de 300 mètres autour des sites tourbeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une tourbière de qualité qui est enchâssée dans un milieu forestier dense, eh bien à ce moment-là, vous aurez un effondrement de la biodiversité du milieu tourbeux. Donc vous voyez que vous avez une imbrication de paramètres environnementaux qui conditionne la qualité des communautés qu'on étudie, qui va de l'échelle du site dont vous avez la gestion à l'échelle du paysage qui est autour. Alors, comment comprendre l'imbrication de ces différents paramètres? Donc sur ma petite animation, chaque carré, ça représente une tourbière. Les carrés noirs, c'est des tourbières qui sont porteurs d'une espèce donnée, dans laquelle une population d'une espèce donnée est présente. Les carrés blancs, ce sont des milieux tourbeux qui sont dépourvus de cette espèce. Un paramètre à avoir à l'esprit, avant de commencer à réfléchir, c'est que toute espèce animale, quelle que soit la qualité du milieu dans lequel elle se trouve, est toujours assortie d'une probabilité d'extinction qui n'est pas nulle. Jamais. Elle est plus ou moins importante, mais elle n'est jamais nulle. Ça veut dire que quand vous suivez un milieu dans le temps, un jour ou l'autre, une espèce donnée, elle va disparaître localement. Que va-t-il se passer dans le temps si on regarde la dynamique de ces populations à l'échelle de l'espace? Ce n'est pas compliqué. Vous voyez qu'il y a des carrés noirs qui deviennent blancs, ça veut dire que l'espèce disparaît, mais vous avez des carrés blancs qui deviennent noirs, ça veut dire que l'espèce est réapparue dans ces milieux. Et comment l'espèce est-elle réapparue dans ces milieux? Tout simplement par un phénomène de recolonisation. Il y a des sites voisins qui sont encore porteurs de cette espèce. Cette espèce a eu la capacité de passer au-dessus d'une matrice paysagère pas trop défavorable pour recoloniser des sites vacants après extinction locale. Donc du coup, quand on étudie des espèces patrimoniales vivant aux dépens de milieux fragmentés, elles fonctionnent souvent avec cette dynamique-là, c'est ce qu'on appelle une dynamique de métapopulation. Et c'est pas bien grave. À l'échelle d'une région, du coup, une espèce animale peut se maintenir malgré des extinctions locales à partir du moment où les extinctions locales sont asynchrones, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas lieu tout au même moment, bien entendu, et à partir du moment où le paysage autour des milieux que l'on étudie est encore suffisamment perméable pour permettre une libre dispersion des espèces d'un site d'accueil à l'autre. Donc ça permet, par cette dynamique de métapopulation, un maintien régional des espèces patrimoniales par des phénomènes de recolonisation successive des sites laissés vacants après extinction. Ça, c'est le cas de figure quand ça marche bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le paysage devient imperméable à la libre dispersion des espèces? Ben, vous en doutez, c'est pas compliqué. On refait la même animation. Il y a des petits carrés noirs qui deviennent blancs. Il y a peu de carrés blancs qui deviennent noirs. Et progressivement, le nombre de sites laissés vacants après extinction locale devient de plus en plus important jusqu'au moment où l'espèce a disparu régionalement. Donc à ce moment-là, Les extinctions locales ne sont pas compensées par de l'immigration car le paysage devient imperméable à la libre dispersion des espèces. Donc on a un appauvrissement progressif en espèces spécialistes des milieux patrimoniaux dont on a la charge, une banalisation des communautés et donc des extinctions régionales. Et c'est pour ça que quand vous étudiez un site, même si ce site est de qualité, à partir du moment où il est enchâssé dans un paysage qui lui est défavorable, on a un appauvrissement de la communauté qu'on étudie. Voilà, alors ça c'était une première série de résultats. Et pour terminer, je vais montrer un autre exemple de résultat d'études que nous avons conduites qui concerne une espèce qui n'est pas spécifiquement inféodée aux tourbières, mais vous allez voir qu'on va revenir aux tourbières en conclusion de ces études. C'est la vipère péliade. Cette vipère, on l'étudie parce qu'elle nous intéresse comme révélateur de l'impact possible des changements climatiques. Et on étudie ses exigences écologiques et quels sont les paramètres environnementaux qui déterminent la qualité des milieux régionaux pour cette espèce. Sur la cartographie que vous avez, vous repérez le massif central avec le plateau de Millevaches ici. Et cette cartographie, elle montre simplement la modélisation de la qualité des habitats pour cette espèce au niveau du massif central. Ce qui détermine la répartition de cette espèce, qui est chez nous en limite sud de répartition, elle monte sinon au-delà du cercle polaire arctique, c'est essentiellement des paramètres climatiques et elle est inféodée à des zones où les températures estivales sont particulièrement froide, on va dire, pour la faire simple. Donc le problème est de savoir comment cette espèce va répondre au changement climatique. Pour étudier ça, dans nos modèles statistiques, on a intégré le scénario de changement climatique le plus optimiste disponible à l'heure actuelle, c'est-à-dire pour lequel les augmentations de température prévues d'ici 2100 sont les plus modestes. Et je vais vous montrer des résultats qui concernent l'évolution possible de l'aire de distribution de cette espèce entre maintenant et 2100. Vous avez ici la surface de l'aire de distribution actuelle, et ici, sur l'axe des X, 25% de réalisation du scénario de changement climatique, 50%, 75% et 100% de réalisation de ce changement climatique mineur. Vous voyez que, très rapidement, l'aire de distribution de cette espèce diminue comme peau de chagrin, et on peut dire que d'après nos résultats, très rapidement, cette espèce risque de disparaître complètement du massif central. Alors, pas sûr. Pourquoi pas sûr? Parce que les résultats qu'on met, ou les données qui nous servent à nourrir nos modèles statistiques, ce sont des données qui concernent le mésoclimat. Le mésoclimat, c'est les données recueillies par Météo France, ou prédites par les scénarios de changement climatique, qui correspondent grosso modo à ce qui se passe dans une station météo à 1 mètre d'altitude sous abri. Ok. Vous trouvez rarement des vipères péliades vivre dans une station météo à 1 mètre d'altitude sous abri. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et ça n'a rien à voir avec le microclimat. La bestiole, elle, physiologiquement, elle est impactée par le microclimat, c'est-à-dire les conditions climatiques qui ont lieu au ras du sol à l'endroit où elle vit. Et au cours du quaternaire, on est passé par des périodes où les températures étaient plus élevées que maintenant. Il faut le savoir. Et malgré ces passages par des périodes où les températures étaient plus élevées que maintenant, la vipère péliade a réussi à se maintenir dans le massif central. Donc, dans un scénario de changement climatique aussi catastrophe que cela, on peut penser, sans trop risque de se tromper, que le maintien de cette espèce au niveau de notre région dépend de la préservation de milieux dont le microclimat leur est favorable, même si le mésoclimat devient beaucoup plus chaud. Et ces milieux-là, c'est quoi? C'est les milieux tourbeux qui sont de véritables poches à froid dans le paysage. Donc ça montre l'importance de la préservation des tourbières pour tamponner les effets du changement climatique. Bon, on est content, ça nous conforte. Mais il faut aussi montrer que ça va complexifier le problème. Parce que les vipères qui vont dépendre de ces microclimats, elles hibernent pas dans les tourbières. Ça ne marche pas trop. L'hiver, elles sont dans le sol. Le sol d'une tourbière, c'est plein de flotte. L'hiver, c'est gelé, ça ne lui va pas trop. Elle va hiberner dans les landes voisines aux tourbières, dans lesquelles elle va pouvoir installer ses hibernaculums, ses sites d'hivernage. Et donc là, ça montre qu'il faut avoir une réflexion assez serrée sur nos modes de gestion et de restauration de ces landes. Pourquoi ? Parce que si vous avez une concentration extrême des aires de distribution de ce style d'espèces dans ces milieux-là, et qu'on gère nos landes avec des interventions mécaniques lourdes, susceptibles de détruire les hibernaculums ou d'avoir un impact négatif assez fort sur les populations, eh bien on peut avoir un impact, du coup on peut accélérer ou perdre la capacité en tampon des milieux tourbeux en tant que minimisation de l'effet des changements climatiques. Et donc là, ça montre la complexité des problèmes auxquels on est confronté à l'heure actuelle en termes de conservation. Le problème de fond, c'est que quand on fait de la biologie de la conservation, le terme de conservation, ça ne va pas très bien. Parce que conserver, c'est maintenir en l'état des choses telles qu'elles sont. En fait, ça ne marche plus parce qu'on essaie d'enrayer l'érosion de la biodiversité dans un contexte maintenant de changement complet. Donc il faudrait changer de terme et pas parler de biologie de la conservation. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. On a bien pensé, donc, on a compris l'importance de repenser les stratégies d'action. Est-ce qu'il y a des questions? Ça en suscite sûrement, là, des questions. Erwan, peut-être un commentaire, parce que je sais que c'est un sujet qui est très cher.
Ben, c'est vrai que nous, on a plusieurs sites gérés par le conservatoire, où il y a des ensembles de landes et de tourbières. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des choses qu'on a vues dans la bibliographie. Que les complexes de landes et de tourbières, qui avaient ce qu'on appelle une solidarité écologique entre ces deux milieux. Voilà, mais ça, on l'a vu, nous, dans des livres. Et c'est intéressant que Frédéric Lagarde et son équipe le montrent sur le terrain. Quoi. Ça a d'autant plus de poids. Et c'est intéressant aussi de montrer à des organismes qui financent les programmes de préservation des zones humides que pour que les zones humides fonctionnent, eh bien, il faut aussi prendre en compte le bassin versant. Donc je pense qu'on va pas mal en discuter dans la table ronde agricole, voilà, que les vaches ou les moutons, ben, elles aiment bien avoir des milieux secs et des milieux humides. Mais là, on voit que les vipères-péliades aussi, ben, elles aiment bien avoir tantôt des milieux secs, tantôt des milieux humides. Donc voilà, même si nous, on est le réseau aux zones humides, c'est important de s'intéresser effectivement à ce qui se passe sur le bassin versant, notamment le bassin versant immédiat.
On peut savoir ce que ça représente en implication, je veux dire, combien vous étiez pour faire ces études, la durée aussi, en nombre d'années, vous avez commencé quand?
Sur les résultats concernant les arthropodes, c'est 3 années de manip entre 2008 et 2011 à 3.
Et là, aujourd'hui, vous travaillez sur?
Eh bien, on continue sur la même thématique, mais on s'intéresse aussi de plus en plus aux milieux forestiers, parce qu'on ne peut pas parler, comme vous l'avez compris, de conservation des milieux ouverts sans parler de la gestion des milieux fermés, puisque tout est imbriqué. Et que c'est l'échelle du paysage qui est vraiment une échelle de réflexion importante, puisque ce n'est pas que la qualité des sites qui joue, mais la qualité du paysage dans son intégralité.
Et au départ, pourquoi vous étiez intéressé plus particulièrement aux milieux zones humides, milieux tourbeux?
Parce que ce sont les milieux qui sont d'enjeux prioritaires en termes de conservation au niveau du plateau. Donc c'est une bonne clé d'entrée. Mais bien entendu, vous voyez tout de suite que tout est imbriqué. Donc après, vous êtes forcé d'élargir votre champ de réflexion.
Et vous avez vraiment commencé? Vous êtes tous du plateau, ceux qui
font... Non, pas du tout, personne.
Personne. Vous venez sur le plateau?
Non, on n'est pas natif du plateau, mais on habite ici, oui.
Bonjour, Guillaume Amand, entreprise Lucan. Quand vous parlez d'imperméabilisation ou de perméabilité entre les tourbières. Vous parlez seulement de milieux ouverts pour garder la perméabilité ou c'est,
oui, alors,
ou c'est l'impact seulement en milieu humide?
Non, c'est milieu ouvert. Les résultats, ils montrent que le paysage contraint la dispersion des espèces quand les milieux forestiers, quels qu'ils soient, deviennent trop prégnants. D'accord. Je vais prendre un exemple et vous allez vite comprendre. Si vous connaissez la façon dont une araignée disperse, c'est assez facile de comprendre. Une bestiole qui a envie de disperser, elle monte au-dessus d'une petite herbe, elle met son derrière en l'air, elle dévile un fil de soie dans les courants aériens, elle se laisse porter aléatoirement là où le vent veut bien l'emmener. Et donc, elle est capable, comme ça, de passer au-dessus de milieux qui lui sont potentiellement défavorables, si ces milieux ne sont pas coupés par une barrière de végétation haute. Alors, il y en a plein pour lesquels ça ne marche pas et qui vont disparaître irrémédiablement, mais le comportement de dispersion, il va se maintenir à partir du moment où un suffisamment grand nombre d'individus arrivent à recoloniser des sites. Et sur ce problème de la perméabilisation et de l'imperméabilisation des paysages, ce qui est intéressant de savoir et d'avoir à l'esprit, c'est qu'au niveau d'une espèce animale, un comportement de dispersion, il peut disparaître rapidement de la population par contre-sélection. Ça a été montré sur des papillons en Belgique, où en quelques décennies, le paysage se fermant de plus en plus par du développement de milieux forestiers, certains papillons ont complètement perdu leur comportement de dispersion parce qu'ils n'étaient plus évolutivement intéressants d'être dispersants, puisque c'était un pari voué à l'échec. Ça veut dire dans ce cas-là que si en termes de mesures de restauration des milieux et des paysages, on réouvre des corridors entre les milieux, il faut être aussi avoir ça à l'esprit, parce que ce n'est pas parce qu'on le fait que ça va tout de suite être positif. il va falloir attendre, et c'est un pari qu'on peut faire dont on ne connaît pas le résultat a priori, que la sélection naturelle permette au comportement de dispersion de réenvahir la population pour qu'on puisse en tirer un bénéfice en termes de gestion et de conservation. Et ça peut durer des décennies. Une fois qu'on a cassé le système, bah, il faut être capable d'attendre le temps nécessaire pour récupérer nos conneries. Voilà, grosso modo.
Oui, voilà. La réflexion que j'ai, c'est tous ces paysages, finalement, ils ont été beaucoup modelés par l'homme. Et la réflexion, c'est et avant, ça se passait comment? Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr de bien intégrer cette question-là dans nos pratiques? Parce que du coup, on va peut-être se tromper aussi, parce qu'en fait, le paysage, c'était pas celui qu'on avait imaginé.
Un paysage, c'est jamais quelque chose de fixe, c'est toujours quelque chose de mouvant qui change dans le temps. C'est pour ça que je parlais de termes mal appropriés quand on fait de la biologie de la conservation. C'est pas ça. On essaie de lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, il ne s'agit pas de maintenir des choses en l'état, puisque l'équilibre n'existe jamais. Et donc avant, comment c'était? Bien entendu, au début du XXe siècle, sur le plateau de Mille Vaches, les milieux forestiers étaient très minoritaires à cause de l'action de l'homme. Avant que l'homme ait tout ouvert, il y a de fortes chances que le plateau de Mille Vaches ait été beaucoup plus fermé. Mais ça, c'est un problème super compliqué. Je ne sais pas si on a le temps d'en débattre ici, mais grosso modo, on a l'image, souvent en écologie, qu'avant que l'homme soit là, il y avait de la forêt partout. Il y a des chercheurs qui commencent à bosser là-dessus et qui commencent à se poser des questions par rapport à ça. Et on pense qu'avant que l'homme ait changé drastiquement les paysages, l'Europe tempérée devait être plutôt couverte par une imbrication de milieux mosaïques entre des milieux forestiers et des milieux ouverts, ou des forêts-parcs. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des populations de grands herbivores suffisamment importantes pour contraindre localement la régénération forestière. Et ça peut se comprendre quand on regarde où se niche la biodiversité à l'heure actuelle. Elle n'est pas nichée dans les milieux forestiers, mais surtout nichée dans les milieux ouverts. Donc ça témoigne d'un héritage évolutif où les milieux ouverts avaient une importance beaucoup plus importante que ce qu'on a bien pu croire pendant longtemps. Voilà. Mais effectivement, rien n'est fixe. Si le curseur s'est conservé la biodiversité, ben après, il faut voir l'impact de nos actions, mais l'objectif, ce n'est pas de constituer un paysage quel qu'il soit. Quoi. C'est de voir quel effet ça a sur la biodiversité.
C'était une table ronde autour du thème « Eau, zone humide et biodiversité » enregistrée à l'occasion des deuxièmes rencontres du réseau des zones humides le 7 février 2015 à Royères-de-Vassivière. Retrouvez toutes les tables rondes de ces rencontres sur notre site www.radiovassivière.com, rubrique conférences. Retrouvez également toutes les informations sur le réseau Zones Humides sur le site du Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin, www.conservatoirelimousin.com.